Bon. Eh bien, heureux de vous revoir après ces 2 semaines de repos qui ont permis à certains de lire la Bible presque en entier, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je ne désignerai pas Sania, mais elle m'a dit qu'elle a profité de ces 15 jours pour se mettre à niveau et lire la Bible jusqu'à ce topo. Donc, c'est extraordinaire. On a médité sur l'histoire d'Israël. Une histoire sainte et pas toujours sainte. Une histoire de combat, de victoire imparfaite. Et puis sur cette histoire vont se greffer deux types de livres. On va retrouver deux grandes catégories, les livres prophétiques qu'on a étudiés la dernière fois, et puis les livres de sagesse qu'on va regarder ce soir. On a donc, si vous voulez, jusqu'à présent, trois types de livres. On a des livres historiques, des livres prophétiques et des livres de sagesse. Et il faut les trois. On a besoin des trois dans notre vie. On a besoin de livres historiques parce que notre vie, c'est une histoire. On a besoin d'un narratif. Et c'est pour ça que la Bible nous raconte tellement d'histoires, parce qu'au fond, elle veut nous parler de nous. C'est notre histoire, la sortie d'Égypte. C'est notre histoire, l'entrée en Canaan. Mais ensuite, pour essayer de continuer la route alors qu'il y a des combats, il va falloir deux choses. Il va falloir d'une part être encouragé, et ça c'est les prophètes. Courage, Zorobabel, vas-y, continue parce qu'il y a une promesse. Et puis il va falloir trouver du sens. Et ça c'est l'enjeu des livres de sagesse. Donc on a notre histoire avec que des combats. Hein. La vie est un combat, accepte-le, comme disait Mère Teresa. Et puis, là-dessus, pour accepter que ma vie, c'est des combats, il va falloir qu'il y ait une espérance, c'est les prophètes. Et puis, il va falloir qu'il y ait de la sagesse, qu'il y ait du sens. Ça, c'est les livres de sagesse. Alors, vous allez trouver trois types de livres comme ça. Et parmi les livres de sagesse, il va y en avoir sept. Alors, je les énumère. Le livre de Job, les psaumes. Les prophètes, le cantique des cantiques, le livre de la sagesse, le Qohélète et le Siracide. Alors on va les regarder ce soir en les présentant rapidement. Alors c'est un regroupement un petit peu artificiel parce que ce sont des livres qui sont écrits dans des styles très différents, à des époques différentes et même parfois dans des langues différentes puisque le livre de la sagesse est écrit en grec alors que la plupart du temps la Bible est en hébreu. Donc on est dans des univers culturels très différents, mais il y a un point commun, c'est que tous ces livres vont impliquer une réflexion du peuple d'Israël sur son histoire. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait sortir d'Égypte? Pourquoi tant de combats? Pourquoi nous avoir fait marcher dans le désert? L'esclavage finalement, c'était bien commode, c'était compliqué, mais on avait au moins à manger tous les jours, la marmite avec les oignons, etc., les concombres d'Égypte. Et finalement, on se demande, mais pourquoi on est sorti pour être libre? C'était bizarre, l'esclavage, mais au moins c'était sécurisant. Et ça, je ne sais pas si ça vous rappelle pas des choses dans votre vie. La liberté, finalement, n'est pas la passion dominante des hommes. La passion dominante des hommes, c'est la sécurité. Si à choisir, on préfère la sécurité à la liberté. Sauf quelques héros. Mais malheureusement, la plupart du temps, les gens vont revenir et ils préfèrent encore l'esclavage à la perte de la sécurité. Et on le voit dans ces livres de sagesse, c'est le problème. Ou plus généralement, la problématique, c'est quel est le sens de tout cela? Comme dirait Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux? C'est pas un père de l'Église. Ou alors, comme dit le psalmiste, qui nous fera voir le bonheur? Tous les livres de sagesse vont tourner autour de cette question. Qui nous fera voir le bonheur? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde a du sens? Alors le premier livre qu'on va regarder, c'est le livre de Job, dont on a une représentation par Chagall derrière, assez spectaculaire comme représentation, hein. Ça relate l'histoire d'un personnage ancien, un païen, c'est pas un juif, Job, curieusement. Et il va lui arriver tout un tas de catastrophes. C'est un homme parfait, injuste, il est merveilleux, il prend soin de sa famille, de ses enfants, de l'honneur qui est dû à Dieu. Tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où le démon fait une sorte de deal avec Dieu. Et de façon assez énigmatique, Dieu permet au démon d'avoir accès à la vie de Job, pas à sa vie biologique, il ne peut pas le toucher, il ne peut pas le faire mourir, mais il va ravager tout le reste. Donc Job, c'est vraiment l'image même de celui dont la vie est une catastrophe qui perd tout en un instant. D'ailleurs, son nom l'indiquait, puisque Iob en hébreu, ça veut dire le souffrant, celui qui est oppressé. Vous voyez déjà, quand vous recevez un nom comme ça à la naissance, c'est mal parti. Alors, c'est un des livres qui a le plus intéressé les philosophes, les penseurs. Il y a beaucoup de commentaires sur le livre de Job. Toute une littérature. Je voudrais vous citer ici juste le début du commentaire qu'en a fait saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, parce que ça me semble très intéressant ce qu'il dit pour expliquer la problématique du livre de Job. Il commence comme ça, il dit: Ce n'est pas toujours aux bons que les bonnes choses arrivent, et les mauvaises aux méchants, ni inversement, les mauvaises aux bons et les bonnes aux méchants. C'est-à-dire, il y a des gens bien à qui il arrive toujours des problèmes. Il y a des gens mauvais à qui il arrive du bien. Alors vous pouvez dire, ah bon, j'ai compris alors. Ben non, parce qu'il y a des gens aussi bons à qui il arrive aussi du bien, puis il y a des gens mauvais à qui il arrive du mal. Donc en fait, ça a l'air d'être complètement aléatoire, cette histoire. Et c'est pour ça que saint Thomas poursuit. Et c'est donc cela qui impressionne surtout le cœur des hommes, pour leur faire penser que la divine providence ne gouverne pas les choses humaines, et que les choses arrivent par hasard. Ouais, s'il y avait une loi au moins, si tu agis bien, tu as du bien, ou si tu agis mal, tu as du mal, ou même l'inverse, si tu agis mal, tu vas t'enrichir, si tu agis bien, tu vas être pauvre. Au moins s'il y avait des lois repérables. Ben non, en fait, ça a l'air d'être aléatoire, on a l'impression que c'est la loterie. Et saint Thomas alors dit, Or, une telle opinion que tout vient du hasard cause un très grand tort aux hommes. C'est pourquoi, après la longue promulgation de la loi de Moïse, les juges et les rois, après les prophètes, il fallait en premier lieu qu'il y ait le livre de Job. Donc le livre de Job, c'est pour nous rassurer sur le fait que everything is under control. Tout est sous contrôle. Quelqu'un est responsable de tout ça. Alors regardons le livre de Job. Vous avez vu que vous le connaissez plus ou moins, j'imagine. Vous savez qu'il y a trois amis qui viennent, qui vont essayer de le consoler. Et puis en fait, au bout d'un moment, ils ne vont pas essayer de le consoler du tout, ils vont être très maladroits. Comme ils continuent de dire qu'il est innocent, ça les énerve. Parce qu'ils sont dans une logique de rétribution, qui était la logique de l'époque. Et comme on est souvent d'ailleurs, quand on a un problème, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Comme s'il y avait une cause. S'il m'arrive des problèmes, c'est que j'ai fait du mal. Et le type lui dit, mais non, je suis innocent, je crois que j'ai fait que de bien. Et eux, ils disent, c'est pas possible. Possible, non. Si tu arrives autant de problèmes, c'est que tu as péché, mon pote. Et il dit, ben non, 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 je vous assure. Mais c'est Dieu, par contre, qui a un problème. Et il va jusqu'à dire, il va presque jusqu'à blasphémer. Il est tellement convaincu de son innocence qu'il va dire que Dieu vienne à la barre et moi, je vais l'interroger. Et au fond, il est dans la même logique de rétribution. Les autres sont dans la logique de rétribution et Dieu doit être innocent, donc c'est Job qui est coupable. Et lui, il se sait innocent dans sa conscience. Il dit donc, c'est Dieu qui est coupable. L'un de nous doit être coupable. Et c'est tout le problème du livre de Job. Et au chapitre 38, du chapitre 38 au chapitre 40, Dieu apparaît à Job. Et là, va un petit peu le corriger. Il dit, tu étais où quand j'ai créé Léviathan? Tu étais où quand j'ai fait ceci? Tu étais où? Puis au bout d'un moment, Job dit, j'ai parlé une fois, je ne parlerai pas deux fois. Et c'est dans ce passage, il dit, je ne fais pas le poids. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai pas deux fois, je n'ajouterai rien. Oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, je vais t'interroger. Je ne te connaissais que par oui-dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi j'ai horreur de moi, je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne te connaissais que par oui-dire, et maintenant mes yeux t'ont vu. Toute la différence entre la foi et la vision. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est toujours par oui-dire. J'ai entendu dire que Jésus est ressuscité et j'ai adhéré. Je ne l'ai pas vu. Et j'aimerais bien un jour le voir. Et donc la foi, c'est en vue de la vision. Je ne te connaissais que par oui-dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Elle a été reprise, cette phrase, lors du synode des évêques sur la parole de Dieu, justement sur la Bible. Et je vous lis ce que disaient les évêques à Rome. Les paroles sans visage ne sont pas parfaites, parce qu'elles n'accomplissent pas en plénitude la rencontre. Comme le rappelait Job, arrivé au terme du drame de son itinéraire de recherche, « Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, Job, il est de l'Ancien Testament. On pourrait dire que tout l'Ancien Testament, c'est connaître Dieu par oui-dire. Mais on attend un visage. Et pour ce qui est ce visage, il faut que le Verbe se fasse chair, et ça, c'est Noël. J'ai rencontré des parents récemment qui sont à quelques points d'avoir leur enfant. Et c'était drôle, il disait on a envie de voir son visage maintenant. Ça fait 9 mois que l'enfant est là, on ne sait pas le visage qu'il a. Je ne te connais que par oui-dire, mais je veux voir ton visage. Et donc c'est très beau au fond de se dire que nous avons la même attente à l'égard du Christ, à l'égard de Dieu. Pour l'instant, on le connaît par oui-dire, on lit la Bible, on entend des témoignages, et ça nous met en appétit de le voir. Et quand on le verra, on aura la réponse à toutes nos questions. Alors, il y en a qui le disent, j'aurais bien des questions à lui poser, effectivement. Mais peut-être que lui aussi aura des questions à nous poser, qu'on sera comme Job en disant, oups, arrêtons-nous là. Alors, à la fin, vous avez la restauration de Job. Le Seigneur bénit les nouvelles années de Job, plus encore que les premières. Il eut 14 moutons, 6000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 paires d'ânes. Alors moi, je serais bien embêté avec tout ça. Si vous voulez me faire un cadeau, ne me faites pas ça. Si le Seigneur pourrait, oui. Dire, oh, c'est bien, Thomas, tiens, parler de la Bible, tiens, je t'offre 1000 chameaux. Je vais faire quoi avec ça? Il eut 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle. La deuxième, Fleur de cannelle. Et la troisième, Ombre à paupières. Ça, c'est si vous avez encore des doutes sur le nom à donner à vos enfants ou petits-enfants. On ne trouvait pas dans tout le pays d'autres plus belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et ses filles, et les fils de ses filles, etc., jusqu'à la 4e génération, et il mourut vieux et rassasié de jours. Alors, il y avait une des questions qu'on a posées, c'est quoi les chiffres 140 ans? Vous voyez, ça fait vieux quand même, déjà, il n'est pas jeune. Il vit encore 140 ans. Je ne sais pas si c'est une grande chance, en fait. Les chiffres dans la Bible sont souvent symboliques. À chaque fois, il faut se demander plutôt qu'est-ce que ça signifie 140 dans la symbolique des chiffres, plus que le fait de se dire est-ce qu'il a vraiment vécu 200 ans, etc. Et on reste finalement un peu sur notre fin. Ok, Job possède désormais 14 000 brebis, 6 000 chameaux. Mais au fond, est-ce que ça suffit pour consoler Job? Il a perdu ses enfants, il a perdu... Dieu n'a rien d'autre pour nous consoler? Dieu n'a-t-il rien de plus à offrir à quelqu'un qui a tellement souffert que des moutons? À mon avis, ça c'est la question à laquelle Coëlette va essayer de répondre. Job ouvre une nouvelle question, c'est la question de l'Ecclésiaste. Alors, Coëlette, on dit aujourd'hui Coëlette, ça veut dire, ça vient de Kahal en hébreu, ça veut dire l'assemblée. Et en latin, l'assemblée, c'est église, ecclésia. Avant, on disait l'ecclésiaste. On parlait latin, alors qu'aujourd'hui, on parle plus hébreu, on dit Coëlette. C'est la même chose. Le Coëlette, c'est celui qui rassemble, donc, c'est l'assemblée. Donc, le Coëlette, c'est le rassembleur. Et peut-être qu'il ne rassemble pas tellement des personnes que ses idées. Coëlette, c'est quelqu'un qui rassemble ses idées, qui fait le point sur la vie. Parole de Coëlette, fils de David, roi de Jérusalem. Ah, ça c'est intéressant. C'est qui le fils de David? Salomon, un des fils en tout cas. Salomon, roi de Jérusalem. Donc ça veut dire que ce livre est attribué à Salomon. Alors historiquement, les exégètes disent que ce n'est pas possible et que ce livre est sans doute écrit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais il reste que l'auteur se cache derrière la figure de Salomon, et il doit y avoir une raison, et on le verra. La question de Job, c'était « Pourquoi le juste doit-il souffrir ?» La souffrance de l'innocent, qui pointe d'ailleurs vers Jésus-Christ, l'innocent par excellence. La question de Coëlette, ce n'est pas seulement la souffrance de l'innocent, c'est celle de la valeur de la vie en général. Job se demandait comment Dieu pouvait priver un homme juste de tous ses biens, alors que le Coëlette va plus loin, il se dit, tout ce qu'on peut obtenir sur la terre finalement, est-ce que ça suffit à nous combler? Tout cela n'est-il pas vain? Et c'est pour ça que le livre commence par la conclusion de cette question. Vanité des vanités, tout est vanité. Parole de Coëlette, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Coëlette, vanité, tout est vanité. Quel profit a-t-il pour un homme de tout le travail qui s'est fait sous le soleil? Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a plein d'expressions qu'on utilise aujourd'hui couramment qui viennent de la Bible. Hein. Rien de nouveau sous le soleil, etc. Ça vient de là. Vanité de vanité, tout est vanité. Donc c'est assez pessimiste ce livre. C'est pas le genre de livre qu'il faut lire là quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez un peu le blues. Et toi, je lirais bien un peu de Coëlette aujourd'hui. Pourquoi pas la nausée de Jean-Paul Sartre tant que vous y êtes. Coëlette, de fait, a un petit côté existentialiste. C'est presque un livre philosophique. Alors c'est curieux, c'est un livre révélé. En quoi il y a une révélation ici? Comprenons d'abord que c'est écrit par Salomon, prétendument. En tout cas, on le prête à Salomon. Celui dont on nous dit qu'il a possédé plus de biens que tout le monde. 12 000 chevaux, il avait de l'or en quantité extraordinaire, il avait la paix dans son royaume, alors que David s'est battu pendant 40 ans. Salomon, lui, n'a pas eu à se battre. C'est vraiment Shalom, il porte ce nom, hein, Salam, Shlomo, ça vient de la paix. Il porte dans son nom ce qu'il a vécu. Pendant 40 ans, il a eu la paix dans son royaume. Il a été honoré par tout le monde, il avait une connaissance extraordinaire. On lui prête la composition de 3000 proverbes. Il a écrit les psaumes, on lui prête aussi l'écriture du Cantique des Cantiques. Donc Salomon, c'est l'homme dans sa plénitude, si vous voulez, celui qui a épuisé tous les domaines de la vie et qui a goûté à tous les plaisirs possibles. Et c'est pourtant cet homme-là qui dit « vanité des vanités, tout est vanité ». Evel evelim, en hébreu, evel, ça veut dire la vapeur. On pourrait traduire « vapeur de vapeur, tout n'est que vapeur ». Attention, vanité des vanités sous le soleil. S'il n'y avait pas cette phrase, je crois que ce livre n'aurait rien de révélé. Ça ne serait pas juif, ça serait même pas, ça serait surtout pas chrétien. Sous le soleil, pas dans l'absolu. Vanité des vanités sous le soleil, mais au-dessus du soleil, il y a peut-être du sens. Là où Dieu existe, au ciel. Peut-être que là, il y a du sens. Mais s'il n'y a pas Dieu, alors ça n'a pas de sens. Je crois que c'est ça un peu le message de Coëlette. La question avec laquelle on demeure, c'est y a-t-il quelqu'un au-dessus alors? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du soleil? Il faudra peut-être attendre Jésus-Christ pour le savoir vraiment. Le livre des psaumes va reprendre la question. Alors les psaumes, c'est beaucoup plus large que simplement des écrits de sagesse. Il y a plein de choses dans les psaumes, il y a presque tout. Mais il y a aussi une réflexion sur la sagesse qui se poursuit, notamment au chapitre 73, où le psalmiste dit son incompréhension devant la providence de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi le méchant prospère, pourquoi le juste décroît. Alors il dit un moment, pour exprimer à quel point il ne comprend pas, « Et moi, stupide, sans comprendre, j'étais comme un hippopotame devant toi. » Alors évidemment, en hébreu, ce n'est pas forcément hippopotame, je ne sais pas si les Hébreux ont vu beaucoup d'hippopotames dans leur vie. En hébreu, c'est behemoth, c'est une grosse bête. Alors, je ne sais pas quelles étaient leurs grosses bêtes à eux, mais moi, j'aime bien traduire par hippopotame. Je me sens souvent comme un hippopotame devant Dieu. Les psaumes, ça représente quelque chose de très important pour nous, puisque tous les jours à la messe, on entend un psaume. Nous, les religieux, on dit les psaumes plusieurs fois par jour, les laudes, l'office de sexe, les vêpres, etc. Et puis on associe les laïcs d'ailleurs. Donc dans le bréviaire, on passe notre temps à lire les psaumes. Donc vous voyez que l'Ancien Testament est constamment christianisé. Dans notre vie chrétienne, les psaumes font vraiment partie du quotidien. Et Jésus a chanté les psaumes. Je ne sais pas si vous avez noté que la dernière chose qu'il fait après la Sainte Cène, avant d'entrer dans sa passion, on nous dit en Saint Marc, alors il chanta les psaumes avec ses disciples. chanta le grand Hallel même, une partie des psaumes. Il y a 150 psaumes qui sont, on peut les catégoriser en 5 groupes, mais on ne va pas entrer dans le détail ici, ça serait trop vaste. Hein. Les psaumes, c'est vraiment quelque chose à ruminer, à relire, à chanter, puisque c'est fait pour être chanté. Hein. Les psaumes, ça veut dire littéralement, en hébreu, c'est mizmor, ça veut dire cantiler, cantillation. Saint Ambroise, je vais juste m'en tenir à un commentaire de Saint Ambroise sur le psaume 1, pour vous donner le goût de les lire. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un psaume ? Le psaume est bénédiction prononcée par le peuple. Lorsque je dis les psaumes, je suis embrasé par un désir d'amour divin. Chez eux, je trouve rassemblée la grâce des révélations, les prophéties de la résurrection, le trésor des promesses. Chez eux, j'apprends à éviter le péché. Je désapprends la honte de faire pénitence pour mes fautes. Qu'est-ce donc que le psaume ? C'est un instrument de musique dont joue le saint prophète avec l'archet du Saint-Esprit et dont il fait résonner sur la terre la douceur céleste. Donc voilà, on sent Saint Ambroise enflammé à la lecture des psaumes qui nous dit avec poésie l'intérêt de les lire. Après, vous avez, on va encore plus loin, le Cantique des Cantiques. Alors ça, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Cantique des Cantiques, c'est un superlatif, une manière de dire Cantique le plus parfait, ou le super cantique, si vous voulez, ou le cantique au carré. Non pas le, pour les mathématiciens, le quantique au carré. C'est l'inverse de vanité des vanités, si vous voulez. Vanité, c'est la super vanité, la vanité au carré. Cantique des cantiques, c'est le cantique par excellence. C'est la perle. Je vous disais que dans les livres historiques, on a une perle, c'est le livre de Ruth, un petit moment de fraîcheur au milieu de tant de violence. Après, dans les livres prophétiques, au même moment, on a le livre d'Esther. Et puis là, on a le livre du Cantique des Cantiques. Si vous voyez, trois grandes préfigurations de la Vierge Marie, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Ruth, Esther, la Shunamite du Cantique des Cantiques, la fiancée. Alors, en apparence, c'est plus un poème qu'un livre sapiential. Mais en fait, il nous donne peut-être la meilleure réponse à la question de l'Ecclésiaste. Dieu n'a-t-il pas plus à nous donner que des moutons et des chameaux ? Qu'est-ce que Dieu peut finalement nous donner qui nous console vraiment ? La réponse du Cantique des Cantiques, c'est lui-même. Je serai ta récompense. Je serai pour toi comme un fiancé avec sa fiancée. C'est ça finalement le Cantique des Cantiques. Tout l'intérêt du Cantique des Cantiques, c'est que de nous faire comprendre que Dieu veut faire comme une alliance avec nous, et il va prendre une image très osée d'une alliance nuptiale. Tellement il veut dire « je ne veux faire qu'un avec ton âme ». Alors il y a une question qu'on pourrait se poser, puisqu'on a trois écrits qui sont attribués à Salomon. Le Cantique des Cantiques, le Coëlète, et puis le livre des Proverbes. Coëlète, vanité des vanités, Cantique des Cantiques, c'est vraiment le chant de la bien-aimée pour son bien-aimé, et réciproquement. Et puis les proverbes. Et alors, le Talmud babylonien, le Talmud, c'est le commentaire juif de la loi, de la Torah, se demande dans quel ordre Salomon aurait écrit ces trois ouvrages. Alors, ils ont cette proposition, ils disent, bon, Salomon, vers 40 ans, il a écrit les proverbes. Il a de la sagesse, il a réfléchi sur la vie, il écrit les proverbes. Après, il est déçu de la morale. Alors, il écrit le Coëlète, vanité des vanités, tout est vanité. Et puis, finalement, ou plutôt c'est l'inverse. Après, le jeune homme, pour eux, il tombe amoureux. Donc, c'est d'abord le cantique. Après, l'homme mûr, c'est la morale. Et puis, après, à la fin de sa vie, il est déçu partout. Et il écrit vanité des vanités. Heureusement, il y a Origène qui voit les choses autrement. Origène, il dit non. C'est le jeune homme qui écrit les proverbes. Il a fait assez vite le tour de la sagesse de son époque. Il donne les proverbes. Après, c'est vrai, il est déçu par la morale. La morale ne suffit pas à rendre heureux. Vanité des vanités. Mais finalement, il a la réponse. C'est le Cantique des Cantiques. Finalement, il découvre, dans sa vieillesse, à la fin de ses jours, que toute la réponse est dans l'amour de Dieu pour nous et l'amour de nous pour Dieu. Alors, petite intuition comme ça. Voilà. Si on prend au sérieux le fait que ces trois livres sont attribués à Salomon, dans quel ordre on peut les mettre ? Les proverbes, alors, que Salomon, selon Origène, aurait écrit en premier. Les proverbes, ça a un côté beaucoup moins émotif que les psaumes et le cantique des cantiques. On revient à la raison, si on peut dire. C'est l'intelligence prudentielle. Alors, c'est une longue liste de proverbes. Alors, ça peut être fastidieux. Vous avez proverbe, proverbe, proverbe à la suite. Ça peut être aussi un lieu où vous allez puiser plein, plein de sagesse, de bons mots à sortir aussi à table. Moi, j'aime bien, pour passer ce livre que j'ai trouvé un petit peu fastidieux, de repérer, il y en a des drôles. Donc moi, je vous donne ce petit truc. Allez, lisez le livre des proverbes en soulignant tous ceux qui vous font sourire. Moi, il y en a un que j'ai bien aimé, là. « Le paresseux met sa main dans le plat, mais il trouve fatigant de la ramener à la bouche. » Un petit truc comme ça, ça ne s'invente pas, quoi. C'est forcément révélé. Je vous cite juste le début pour que vous voyez l'esprit du livre des proverbes. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Veux-tu connaître la sagesse et l'instruction, avoir l'intelligence, des propos intelligents? Veux-tu acquérir une instruction éclairée? Veux-tu rendre astucieuses les naïfs, astucieux les naïfs, donner aux jeunes gens savoir et perspicacité? Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Avec tout ce livre commence par écoute, schéma. Écoute, mon fils. Dans la règle de Saint-Benoît, d'ailleurs, il reprend ce texte. Au début de sa règle, la fameuse règle de Saint-Benoît, il cite le livre des Proverbes. « Écoute, mon fils. » Et là, je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner une sagesse de vie. Donc, c'est très beau de baigner un peu dans tous ces proverbes pour y découvrir vraiment le fruit d'une sagesse de vie. Après, vous avez le Siracide. Donc, on est au sixième livre de sagesse. C'est un des rares livres dont on connaisse l'auteur, Ben Sira, c'est pour ça qu'on l'appelle le Siracide. Donc Ben Sira, ça veut dire Ben le fils, hein, le fils de Sira. Ce livre est écrit à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, donc on commence à s'approcher d'une époque qu'on connaît un peu mieux, hein, pour nous. On l'appelait avant l'Ecclésiastique. Vous avez Coëlette, l'Ecclésiaste, et puis celui qu'on appelle aujourd'hui Siracide s'appelait avant l'Ecclésiastique. Ça veut dire l'Assemblée aussi, hein, ecclésiastique. Parce que ce livre était lu souvent dans les assemblées juives, donc voilà, les néophytes le lisaient beaucoup. Et pourquoi ? Parce que c'est une sorte de réflexion sur l'histoire d'Israël. Donc c'est un livre très pédagogique, où vous avez plein de propos de sagesse, mais aussi une sorte de relecture de l'histoire. Donc ça vous fait l'histoire biblique en condensé, notamment à partir du chapitre 44, l'auteur repart d'Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Josué, Caleb, les juges, Samuel, Nathan. Et il vous refait l'histoire biblique. Donc si un jour vous dites, bon, c'est trop long la Bible, là vraiment, vous lisez le livre du Siracide à partir du chapitre 44, et vous avez déjà un bon résumé de l'histoire biblique. Un résumé de sagesse en plus. Ce n'est pas simplement un narratif ici, c'est un regard de sagesse sur ce qui s'est passé. Alors ça peut être intéressant pour nous. Dernier livre, septième livre de sagesse, justement, qui s'appelle le livre de la sagesse. C'est aussi chronologiquement le dernier écrit de l'Ancien Testament. Peu importe la manière dont il est situé dans votre Bible, mais historiquement, il est écrit sans doute au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à la fin de l'époque hellénistique, avant l'époque romaine. Il est écrit en grec. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il est pétri d'hellénisme. Vous avez une sorte de synthèse entre la pensée des philosophes grecs et le judaïsme. Et à ce titre, il est vraiment très intéressant, ce livre. Et de même que le peuple d'Israël est parti d'Égypte en pillant les Égyptiens, ils leur ont piqué leur or, tout ça. Jetons un voile pudique sur cette scène. Et bien là, on pourrait dire qu'ils ont pillé la sagesse grecque. Ils ont été chercher chez les Grecs tous les concepts. Ils en ont fait un livre biblique. C'est une sorte de synthèse entre le génie juif et le génie grec. Et c'est peut-être là le sommet des livres de la sagesse. Il y a deux sommets. Affectivement, je dirais que c'est le Cantique des Cantiques. Intellectuellement, c'est le livre de la sagesse. Notamment parce que c'est ici qu'apparaît pour la première fois, de façon très explicite, la question de l'immortalité de l'âme. Jusqu'à présent, ce n'est pas une évidence dans l'Ancien Testament qu'il y a une vie après la mort. C'est très flou. il faut attendre le livre de la sagesse, le dernier écrit, pour commencer à voir qu'il y a vraiment l'affirmation théologique d'une vie après la mort, d'une immortalité. Alors je termine avec ce beau passage du chapitre 6. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche des eaux qui sont dignes d'elle, de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. C'est vraiment une invitation à demander à Dieu la sagesse. Je ne sais pas si c'est une prière que vous faites souvent. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi ta sagesse. Je ne suis pas sûr qu'on la fait suffisamment souvent, celle-là. Alors, vous voyez, les réponses de l'Ancien Testament sont très belles, mais encore un peu décevantes. À certains égards, les écrits de sagesse sont finalement des livres sans réponse, sans réponse définitive en tout cas. Mais ils sont importants parce que pour bien entendre une réponse, il faut avoir bien posé la question. Heidegger disait, grand philosophe allemand, disait que la question est la piété de la pensée. Je ne dirais pas la piété personnellement, mais la question est la mendicité de la pensée. Il faut être mendiant par rapport à la vérité. Et si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Le mendiant, il passe son temps à demander. Et s'il reçoit, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Sinon, il meurt. Il faut être dans cette attitude par rapport à Dieu. Je te supplie de me donner la sagesse. Sinon, ma vie n'est que folie. Alors, les écrits de sagesse posent les bonnes questions, esquissent déjà quelques réponses, mais des réponses encore imparfaites. Et elles ont pour fonction de creuser en nous le désir de la réponse. Le désir de la sagesse, le désir d'aller plus loin dans la découverte de la vérité. Et pour trouver la réponse définitive, eh bien, il faudra attendre celui qui est la sagesse incarnée et qui affirmera clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ou alors saint Paul, qui parlera de la folie de la croix, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, sagesse aux yeux de Dieu. Alors voilà, bonne discussion entre vous. Et puis prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous donne un peu de sa sagesse.